Alors, vous m'avez pratiquement tous demandé si j'avais passé de bonnes vacances. Je suis moins bronzé que vous, mais je reviens d'un mois sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, tout le mois de juillet avec une équipe de 7 chrétiens pour partager l'évangile sur pratiquement presque tout le contour de l'île, hein, de l'est à l'ouest. Et nous étions invités par différentes églises et nous avons chanté, nous avons fait de l'évangélisation le matin, l'après-midi, des réunions le soir, nous avons rencontré des tas de gens. Et donc nous avons eu la joie de voir quelques authentiques conversions qui n'étaient pas liées directement à notre travail, mais au travail des églises qui avaient déjà commencé cette œuvre. Et puis le Seigneur nous a utilisés pour tirer le filet, hein, ramener les poissons à bord. Et puis beaucoup de personnes ont demandé à être visitées, elles le sont à l'heure actuelle, nous recevons des informations régulièrement. Et donc les églises, les chrétiens qui sont quand même assez isolés, l'île de la Réunion c'est à 9700 km de Paris, donc vous voyez ils sont sur leur petite île là-bas, il fait beau, ça je vous l'accorde, mais ils sont quand même isolés. Et ils étaient très très encouragés par notre visite et du coup ils nous ont réinvités en 2015 et en 2017. Mais alors en 2015, c'est les Jeux Olympiques de l'océan Indien, et ça va se passer sur l'île de la Réunion, mais j'ai peur qu'on ne puisse répondre positivement à leur invitation, parce que nous avons un projet d'implantation d'église sur Paris. Et puis 2017, donc, ce serait pour faire une série pendant tout un mois. Alors ça, on va voir si Dieu va rendre ces choses possibles. Ce matin, ou en début d'après-midi, pardon, nous avons comme thème « Ouvre mes yeux ». Je suis très honoré de prendre la parole à l'occasion de ce culte de rentrée en langue française. Je n'avais pas compris que j'étais l'orateur du culte de rentrée, mais ça tombe très bien. Enfin, en tous les cas, pour moi, pour vous, je ne sais, mais pour moi, parce que, justement, puisque c'est le culte de rentrée, c'est la rentrée académique. Vous avez peut-être repris le travail depuis quelque temps et les étudiants, le cours de vos études, de votre scolarité ou de votre université. Mais il n'empêche que nous avons aussi, avec le Seigneur, des choses à vivre. Et le psalmiste du psaume 119, l'auteur du psaume 119, de dire « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Alors le psalmiste est quelqu'un d'intelligent, on s'en rend compte par la structure de ses phrases, par son inspiration, et en même temps il adresse cette prière, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». C'est évident que pour lire les merveilles de la loi, il faut avoir les yeux ouverts. Est-ce qu'il parle des yeux physiques ou est-ce qu'il veut parler des yeux spirituels, les yeux du cœur et de l'âme ? Incontestablement, nous l'avons compris, ce sont l'ouverture des choses spirituelles qu'il est en train de réclamer. Alors ce simple verset nous apprend au moins trois choses. Première chose, qu'il y a des merveilles qui sont contenues dans la parole de Dieu. Ensuite, deuxième chose, personne ne peut voir ces merveilles telles qu'elles sont sans l'aide surnaturelle de Dieu. Il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Et puis, troisième point, c'est que nous devons donc prier pour recevoir une révélation surnaturelle venant de Dieu quand nous lisons l'Écriture sainte. Trois choses. Il y a des merveilles. Nous ne pouvons pas les voir par nos propres capacités. Et nous avons donc besoin de prier. C'est vrai que intellectuellement, et vous êtes intellectuel et intelligent, quand vous lisez la Bible, nous comprenons des choses. Mais rentrer en contact personnel avec Dieu au travers des Saintes Écritures, ça c'est autre chose. J'étais en Suisse il y a quelques semaines et je leur disais, savoir que le chocolat suisse, c'est le meilleur chocolat du monde, c'est bien. Mais à partir du moment où vous avez goûté le chocolat suisse, vous savez quelque chose de plus. Vous êtes passé de la théorie à l'expérience. Oserais-je dire, vous êtes passé d'une connaissance intellectuelle, le chocolat suisse est de réputation le meilleur du monde, à une expérience personnelle. J'ai goûté le chocolat suisse, je sais que c'est le meilleur du monde. Vous faites du chocolat au Vietnam ? Non ? Ok, ça va. Vous voyez, entre la connaissance et l'expérience. Et ce que Dieu veut que nous arrivions à découvrir lorsque nous lisons les Saintes Écritures, puisque nous y sommes invités par l'Écriture elle-même, c'est parce qu'il veut se révéler. Pas simplement que nous ayons une lecture intellectuelle, entre parenthèses, ou entre guillemets, mais vraiment une rencontre avec lui. Vous avez des tas de gens très intelligents qui lisent la Bible. Mais quand vous parlez avec eux, ils ne connaissent pas l'auteur de la Bible. Ils ne connaissent pas la paix de Dieu. Ils ne connaissent pas la joie de Dieu, la purification de Dieu que Dieu procure en Jésus-Christ, la purification des péchés. Ils connaissent parfois mieux la Bible que des chrétiens nés de nouveau, mais ils ne connaissent pas l'auteur des Saintes Écritures. Ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Et ce que nous ne pouvons pas donc voir par nous-mêmes, c'est la beauté spirituelle de Dieu et de son Fils et leur œuvre dans le monde. Vous savez, lire la Bible, ça nous fait, comme vous le savez ou le pressentez, ça nous fait rentrer dans une dimension surnaturelle. Ça nous fait rentrer dans la connaissance de notre Créateur et Sauveur, la connaissance de Dieu. Vous imaginez qu'il y a des gens qui se droguent pour pouvoir rencontrer Dieu, pour avoir des expériences particulières. Ils se droguent et ça les détruit. Et nous avons la source même de la vie, de la toute-puissance, de l'amour, de l'absolu. Nous l'avons, il est là. Et par l'Esprit Saint qui nous habite, Dieu veut rentrer en communication avec nous. Et nous donner donc une révélation de sa personne, une compréhension de sa personne, découverte. J'étais assis au milieu de vous tout à l'heure et je regardais certains jeunes parmi vous et je me disais, mais depuis le temps que je suis invité régulièrement au milieu de vous, ce qui est toujours un réel plaisir pour moi, je découvre que voilà que des enfants sont devenus des pré-ados, voire des ados. Et je vois vos visages, je vois votre physique qui évolue, je vois les compétences, vos engagements. Ce n'est plus des personnes d'un certain âge qui s'occupent à installer toute seule tout le système. Là. Il y a plein de jeunes. Et je me dis, c'est extraordinaire, j'étais au milieu de vous, j'ai connu tout petit. Bon, je n'ose pas parler de moi parce que vous me voyez plutôt décliné avec des cheveux et des poils blancs. Mais en réalité, je suis en train depuis, je sais plus, à peu près, ça fait peut-être 10 années que je viens, ou je ne sais plus trop là. Et je me dis, mais c'est extraordinaire, j'apprends à vous connaître, simplement parce que je suis au milieu de vous. Et quand on lit les Saintes Écritures, c'est cela qui se passe. Dieu veut se faire connaître. Et nous ressortons normalement d'une lecture des Saintes Écritures, d'un moment de face à face avec Dieu, illuminés, transformés. En 2 Corinthiens, justement, chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul dit « Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Voilà qu'au contact de la sainte parole de Dieu, associée au Saint-Esprit qui habite en nous, à partir du moment où nous nous sommes tournés vers le Seigneur, nous avons reconnu nos péchés, nous les avons confessés, nous avons reçu le Christ comme notre sauveur personnel, il nous a baptisés de son esprit, il vit en nous par son esprit, c'est pour cela que nous savons que nous lui appartenons et que nous avons connu le pardon de nos péchés, la purification de notre conscience, que nous avons la certitude de notre salut et qu'après tout, la vie éternelle, c'est le connaître, hein. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est donc une histoire de relation. Eh bien, l'apôtre dit que lorsque nous contemplons le Seigneur, Mais où voulez-vous le contempler en dehors des Saintes Écritures ? Dans la nature, évidemment. Mais la nature ne va pas nous enseigner de la même manière que les Saintes Écritures nous enseignent. La nature nous révèle l'existence de Dieu, ses perfections invisibles, et nous amène à la conversion qui nous permet de pénétrer dans les Saintes Écritures et de découvrir celui qui nous a créés et qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Oui, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ce qui fait que nous pouvons parler de Dieu comme quelqu'un que nous connaissons et dont nous sommes connus. Nous ne bafouillons pas lorsque nous parlons de Dieu, comme certains hommes qui nous parlent de choses spirituelles sans véritablement savoir de quoi ils nous enseignent. Des gens qui hésitent. Pourquoi ces pêcheurs de poissons, les disciples, ont bouleversé le monde ? Ce n'est pas qu'ils étaient des intellectuels particuliers. C'était des hommes et des femmes comme vous et moi, en l'occurrence des hommes, qui ont travaillé, mais qui ont rencontré le Christ. Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Pierre ? Quand Jésus leur dit « Et vous, vous ne voulez pas également vous en aller ?» Jean chapitre 6. Pierre leur dit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et puis il rajoute « Et nous savons et nous avons connu que tu es le Christ. » Savoir et connaître. C'est exactement ce que Dieu veut réaliser dans nos vies, au travers de la lecture des Saintes Écritures, et ainsi nous transformer en la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. En résumé, contempler Dieu nous transforme. Et là, je ne parle pas d'une contemplation mystique. Vous savez, on nous parle des grands saints de je ne sais quelle religion, mais il est question de contempler Dieu dans la parole qu'il a lui-même communiquée à l'humanité, qui est la parole de vérité. Et contempler Dieu nous transforme. Les véritables changements de vie qui honorent Dieu et qui ont une valeur spirituelle viennent lorsque nous avons vu la gloire de Dieu. Lorsqu'en lisant les Saintes Écritures dans notre culte personnel, nous avons ce temps d'intimité avec Dieu, alors automatiquement il y a une transformation qui s'opère. Nous ne serons pas transformés par la rédaction d'une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Ça, c'est de la religion. Fais pas ci, fais pas ça, fais ceci, fais cela. Nous serons transformés dans un face-à-face avec Dieu, en venant à lui, tout simplement, et en lui disant, voilà, Seigneur, qui je suis, là où j'ai des difficultés, mais Seigneur, je t'aime, je t'adore, révèle-toi à moi. Après tout, le grand Moïse n'a-t-il pas dit, fais-moi voir ta gloire ? Après mille et une expériences avec Dieu. Et puis le prophète Ésaïe, dans le chapitre 6 de son livre, d'être tout tremblant parce qu'il a vu Dieu dans son temple. Vous connaissez ce passage du chapitre 6 du livre d'Ésaïe, des versets 1 à 7. Il nous faut une révélation de Dieu. Il nous faut une rencontre avec Dieu, non pas une fois dans notre vie pour notre conversion, mais une succession de rencontres. Un peu comme dans un couple. Vous savez comment l'amour transforme. Et le temps passé ensemble avec la personne que l'on aime et dont on est aimé, c'est ça qui nous transforme. Et c'est la même chose avec Dieu. Il nous aime, il est fidèle, en même temps il est saint. Et c'est l'ensemble de ces, au moins de ces trois vertus qui vont nous transformer. Certitude de l'amour de Dieu, certitude de sa fidélité envers nous, et puis sainteté de Dieu. On ne peut pas séparer les trois d'ailleurs. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'amour, hein, même dans les cantiques chrétiens. Là, hein. Amour, amour. Mais on ne peut pas séparer amour, fidélité de Dieu et donc fidélité de nous vis-à-vis de Dieu en lui demandant de nous communiquer sa fidélité. Et puis sainteté. Et c'est ces trois vertus qui agissent de concert et qui nous transforment. La sainteté nous éloigne du péché et nous rend participants à la nature divine. La fidélité de Dieu nous rassure et son amour nous comble et nous transforme. Dieu révèle la beauté de Christ seulement à ceux qui lisent la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a prévu que l'œuvre de son Esprit Saint, pour nous ouvrir les yeux, soit toujours associée à l'œuvre de transformation de notre pensée par sa parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu et le Saint-Esprit vont agir ensemble dans nos intelligences et dans nos âmes pour nous convaincre afin de nous rendre fidèles et de nous transformer. Il n'y a pas d'action simplement intellectuelle dans la lecture de la Bible. C'est une parole vivante, une semence incorruptible qui a une puissance de vie que le Saint-Esprit démultiplie, puisqu'il est l'auteur lui-même des Saintes Écritures. C'est pour ça que les premiers chrétiens étaient appelés, les premiers croyants étaient appelés des chrétiens, des petits Christs, tellement ils ressemblaient dans leur façon d'être au Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts. C'est ce qui a frappé les non-chrétiens, ils ont dit, voilà, ça c'est des chrétiens, des petits Christs, quelque chose. Et c'est ce que Dieu veut encore faire aujourd'hui avec chacun d'entre nous. En même temps, nous ne devons pas commettre l'erreur de croire que nous avons besoin de recevoir de nouvelles informations de la part de l'Esprit de Dieu. Vous avez des personnes qui recherchent des nouvelles informations. C'est-à-dire, en quelque sorte, ils ne lisent pas vraiment la Bible. Ils passent leur temps à prier puis ils demandent à Dieu une révélation spéciale. Mais les Saintes Écritures nous indiquent que ce n'est pas comme cela que Dieu nous demande d'agir. Pourquoi ? Parce que nous avons mille fois plus d'informations sur Dieu dans la Bible que nous pouvons imaginer ou apprécier. On n'a pas besoin de nouvelles informations. Elles sont toutes contenues dans les Saintes Écritures. Mais de nouveaux yeux pour voir ce qui nous a été révélé dans la parole de Dieu. Et Dieu veut nous donner des yeux qui vont pénétrer dans le monde invisible à l'aide de l'Écriture sainte et de son Esprit Saint. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Nous l'avons donc compris, nous devons prier et lire. En Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 4, Paul, l'apôtre Paul écrit « C'est par révélation » que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots, en les lisant. » Donc l'apôtre parle d'une révélation qu'il a reçue, et il dit aux Éphésiens, en lisant ce que je vous écris, en les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est intéressant ce découpage de cette phrase. En lisant, Dieu a voulu que les grands mystères de la vie, le mystère de Christ entre autres, soient révélés par la lecture. Puis au chapitre 1, verset 18 de cette même épître aux Éphésiens, Paul dit dans sa prière qu'il prie Dieu pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il est question de l'illumination des yeux de notre cœur. Et en même temps, il est question de la compréhension par notre intelligence. Vous me suivez ? L'action sur les deux domaines de nos vies. Notre intelligence a besoin de comprendre, de savoir, de comprendre et d'approfondir. Et Dieu va donner une révélation aux yeux de notre cœur. Et c'est ce qui rend la vie chrétienne tellement agréable. De vivre chaque jour avec une relation renouvelée avec Dieu au quotidien. Quotidiennement, la relation est renouvelée. Dieu doit donc ouvrir nos yeux en réponse à la prière. Vous l'avez compris, la prière ne peut pas remplacer la lecture. Vous avez des chrétiens qui, eux, se disent « moi je prie, mais je n'ai pas le temps de lire ». Mais la prière ne peut pas remplacer la lecture. Paul dit « en les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ ». Il faut donc prier et lire. Mais il ne faut pas simplement prier. Il faut associer la lecture. Le fait de prier peut nous ouvrir les yeux sur ce que nous lisons. Mais si nous ne lisons pas, nous ne verrons rien. Ce n'est pas plus compliqué que cela. C'est une lapalissade, comme l'on dit chez les Français. Prions et étudions. Il n'est plus question, dans la vie chrétienne, arrivée à un certain moment de notre relation avec Dieu, de se contenter d'effeuiller le calendrier. Je prends le feuillet du jour, je lis le verset, la petite histoire qui est derrière ou en dessous, et je pars au travail. Nous ne sommes plus des enfants, des nourrissons. Nous sommes des femmes et des hommes. Nous avons besoin de nourriture plus importante. Manger de la viande, des légumes, du riz. Pour vous qui aimez le riz en particulier, j'ai été servi sur l'île de la Réunion. Je peux vous dire que vous êtes en concurrence avec les Réunionnais pour le riz. Hein. Ils en mangeraient tous les jours, même la nuit en dormant. Mais on a besoin d'une nourriture consistante. Vous croyez que vous allez vivre en simplement absorbant un biberon, alors que vous avez 30 ans, ou 35 ans, ou 40 ans, que sais-je ? Spirituellement, c'est la même chose. Prions et étudions. En 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, l'apôtre dit à Timothée, « Efforce-toi ». C'est donc ce verbe, cette action, c'est s'efforcer. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, et qui dispense avec droiture la parole de vérité. » Dieu nous a donné un livre qui parle de lui, non pas pour que nous le lisions comme bon nous semble. Vous savez que les épîtres, il y a trois épîtres qui s'appellent les épîtres pastorales dans les Saintes Écritures, c'est 1 et 2 Timothée et l'épître à Tite. Les épîtres pastorales, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces trois épîtres sont magistrales dans l'application concrète de la doctrine biblique, c'est-à-dire de la révélation que Dieu donne de lui et de sa volonté. C'est pastoral dans le sens que c'est la mise en pratique, l'explication que Dieu nous donne de la façon dont nous devons vivre pour pouvoir faire sa volonté. C'est le sens des épîtres pastorales. Vous en avez trois. Et lorsque je vous lis 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, ça fait partie donc des épîtres pastorales. Paul dit « Efforce-toi de discerner avec droiture, de dispenser avec droiture la parole de vérité ». Ça signifie que pour dispenser avec droiture, il faut travailler sur la parole pour en tirer le plus de choses possible. On ne peut pas rester sur la surface des choses et de la surface de la parole de Dieu. Nous devons étudier et maîtriser avec droiture la parole de Dieu. Et nous devons prier. Sinon, nous ne verrons pas dans la parole ce dont nous avons vraiment besoin. Je crois que vous faites tous des études supérieures. Et pourquoi vous faites ça ? Parce que vous préparez votre avenir. Pour avoir un travail, gagner de l'argent, faire votre vie, créer une famille, avoir un foyer, etc. Et vous voyez le temps que vous prenez pour vos études, le sérieux, la persévérance qui est la vôtre pour réussir, et avec Dieu, vous donneriez moins. Ce n'est pas pensable. Parce que d'un côté, vous avez raison de travailler pour les choses de ce monde. Il faut bien gagner sa vie, réussir sa vie, nourrir sa femme et ses enfants, et être en bénédiction à la société. Et là, vous avez raison. Mais en même temps, c'est travailler pour des choses qui passent. Et il faut le faire. Mais c'est travailler pour des choses qui passent. Et en même temps, les Saintes Écritures, dans les Épîtres pastorales, nous enseignent à travailler pour les deux, les choses qui passent et les choses qui demeurent, qui sont éternelles. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans une de ses Épîtres, la deuxième aux Corinthiens, si je ne me trompe, il dit « Nous ne portons pas les regards sur les choses visibles parce qu'elles sont passagères, mais sur les choses invisibles parce qu'elles sont éternelles. » Et nous sommes, en tant que chrétiens, vous et moi, appelés à travailler sur les deux domaines avec autant de sérieux. Et souvent, il nous arrive de négliger le côté spirituel, en quelque sorte de négliger Dieu, pour dire les choses autrement. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 2, verset 1 à 6, il est dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. » Recevoir comme un trésor, être attentif, incliner son cœur, réclamer, élever notre voix, rechercher comme du minerai d'argent, comme des trésors cachés, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces verbes? C'est fouiller la Bible pour trouver ce qui a de la valeur. Si elle contient des trésors cachés, recherchons-les. Si c'est du minerai d'argent, cherchons-le. Et prions, comme le dit le verset 3, lorsqu'il dit « si tu appelles l'intelligence, si tu élèves ta voix », c'est l'expression de la prière, ça. Mais ne remplaçons pas notre recherche par la prière. Dieu ordonne de donner à ceux qui le recherchent. Je me suis trompé dans ma phrase, pardon. Dieu s'engage, pardon, à donner à ceux qui le recherchent de tout leur cœur. En Jérémie chapitre 29, verset 13, il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et ça, ce n'est pas un verset simplement pour les perdus. C'est un verset aussi pour les chrétiens. Vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Prions, lisons et réfléchissons. Quel travail, hein. Commence à faire chaud cet après-midi dans ce temple, hein. Nous devons prier et réfléchir. En 2 Timothée chapitre 2 verset 7, dans la version du Semeur, le verset est traduit ainsi « Réfléchis bien, dit Paul à Timothée, réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. » Est-ce que cela signifie que comprendre les enseignements de Paul se fait seulement sur le plan humain de l'intelligence, c'est-à-dire « Réfléchis bien à ce que je te dis. » Non, le verset continue. Parce qu'il dit « Le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. » Nous ne pouvons pas les voir par nous-mêmes, ces choses. Nous ne pouvons pas les comprendre par nous-mêmes. La compréhension spirituelle est un don de Dieu. Mais Dieu a ordonné que le don de la lumière spirituelle vienne par la pensée. Réfléchis bien à ce que je te dis. Donc réfléchissons bien à ce que Dieu nous dit et qu'il a pris soin d'écrire dans ce livre, et le Seigneur nous donnera de comprendre toutes ces choses. D'un côté, un travail avec notre intelligence, notre pensée, notre volonté, et de l'autre, l'action surnaturelle de Dieu qui nous permet de comprendre ce qui n'est pas évident parce que c'est du domaine spirituel dont la Bible nous parle. Alors prions et demandons à Dieu de nous donner les éclaircissements dont nous avons besoin. Réfléchissons et prions. Et prions et réfléchissons. Et pour terminer, en Colossiens chapitre 1, versets 9 à 10, Paul prie ainsi. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il s'adresse donc à des chrétiens de la ville de Colosse. Et on peut conclure de ce verset simplement les choses suivantes. Si le fait de connaître Dieu par la nouvelle naissance, d'avoir une intelligence et une sagesse spirituelle était automatique, lorsque nous connaissons bien la parole de Dieu, alors Paul n'aurait pas besoin de prier de tout son cœur pour que Dieu nous donne cela. Nous avons devant nous, tous ensemble, en tant que chrétiens, un livre précieux qui est la parole de Dieu, mais ce livre nous ouvre la porte dans le monde invisible, la porte de la foi et d'une révélation sur Dieu, une révélation de Dieu. Et si nous voulons être des chrétiens authentiques, comme la Bible le dit, alors nous ne pouvons pas ne pas lire, prier, réfléchir, afin d'être équipés par Dieu. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen.